Radio Classique, les spécialistes.
Trois spécialistes, donc Dimitri Pavlenko et Jérôme Chapuis, qui auront la parole dans un petit instant. Bonjour les amis,
bonjour
Dimitri.
Bonjour
Bernard. Et puis Bernard Sananès, le président d'ELAB, l'Institut d'études politiques et de sondages, qui publie ce matin une nouvelle enquête sur les Français face au Covid-19. Monsieur Sananès, bonjour. Alors, premier point, vous avez noté qu'au cours de l'été, alors que fin juin, une certaine confiance était revenue chez les Français dans la manière de voir la suite face au Covid, ça s'est cassé la figure au cours de l'été.
18 points de plus en deux mois d'inquiétude, trois quarts des Français qui sont inquiets. Alors on n'atteint pas, heureusement, les niveaux qui étaient ceux du pic de l'épidémie. On a eu à un moment jusqu'à 88% des Français qui étaient inquiets. Donc on reste un peu moins, mais trois quarts, 18 points de plus, c'est très important. Ça progresse dans toutes les catégories de population. Comment on peut l'expliquer? D'abord parce que les Français écoutent les chiffres qui sont donnés tous les jours et qui montrent une reprise
de l'épidémie.
Deuxièmement, les médias ont fait leur travail aussi, et donc c'est vrai que ça donne un écho. Et puis, on voit bien que les Français sont très conscients de ce qui se passe. À tous ceux qui disent les Français ne se rendent pas compte, etc., ce n'est pas vrai. L'inquiétude est là, les Français ne sont ni inconscients, ni insouciants par rapport à tout ce qui se passe, on le voit bien.
Et en fait, d'après ce que j'ai compris de cette étude, ils ont peur dans tous les créneaux de la vie. Ils veulent pas prendre les transports en commun, ils veulent plus aller visiter leurs aînés, ils veulent pas aller au cinéma, ils veulent pas aller au restaurant. Donc ils veulent bien rester claquemurés chez eux et ne voir personne.
Alors si vous me permettez, je ne fais pas la même analyse tout à fait que vous. C'est-à-dire que quand je reprends l'ensemble des résultats, moi j'ai plutôt le sentiment que les Français sont inquiets dans toutes les situations que vous venez de décrire, et dans deux particulièrement, les transports, on le sait, on voit
bien
pourquoi.
D'où le vélo.
Voilà. Et le moment où on rend visite aux personnes âgées, ils ont compris aussi que c'est un moment de transmission, surtout dans le contexte. On revient de vacances, on va voir ses parents, ses grands-parents, on peut là transmettre le virus. Donc ça, ils les ont bien identifiés. Mais en même temps, ils considèrent qu'il faut apprendre à vivre avec. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce qu'il y a deux chiffres dans l'étude. C'est sur l'école. Sur l'école, le niveau d'inquiétude, 6 parents sur 10 inquiets. Pourtant, on est favorable
au retour à l'école, scolaire. Le 1er septembre.
Oui, parce qu'on sait bien que la scolarisation doit reprendre, qu'on est inquiet d'échec scolaire. Et donc, oui, on est inquiet, vous avez tout à fait raison, tous les chiffres le montrent. On est moins inquiet. D'ailleurs, c'est intéressant, sur le travail. On voit bien que là, les mesures sur les entreprises sont plutôt rassurantes. On n'a que 4 actifs sur 10 qui sont inquiets d'aller au travail.
Enfin, ces mesures, elles sont finalisées. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier.
Oui, mais même les mesures qui ont été prises pendant le déconfinement ont plutôt rassuré sur le retour au travail. Les gens l'ont expérimenté, ils ont vu que ça se passait pas trop mal. Donc, il y a plus de confiance. Mais donc, on est inquiet, oui, incontestablement, mais on apprend à vivre avec.
Alors, ce qui est amusant, et ça, c'est peut-être typiquement français, à propos des gestes barrières, les gens disent, globalement, c'est bien respecté, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je les respecte, mais ils sont un très très grand nombre, un tiers, 33%, à dire que les autres ne le font pas.
Alors là, il faut prendre.
Ce qui est arithmétiquement pas possible.
Bien sûr, et il faut prendre l'outil sondagier avec le recul nécessaire. Quand 95% des personnes vous disent qu'ils respectent les gestes barrières, on est dans ce qu'on appelle un phénomène sans doute de surdéclaration. D'ailleurs, on le voit bien dans l'intensité des réponses.
D'hypnose collective.
Entre ceux qui disent tout à fait, je les respecte tout le temps, et ceux qui disent je les respecte en général. Voilà. Mais en revanche, on a le sentiment que celui qui fait mal, c'est l'autre. C'est typiquement français, et ça veut dire incontestablement que les gestes barrières ne sont pas respectés par tous, mais quand même, y compris par rapport à tout ce qu'on entend sur les anti-masques, etc., c'est une opposition qui existe, qui est intense et tout. Cette opposition n'est pas majoritaire. Et de loin, il y a aujourd'hui, il faut le dire quand même, il faut se méfier des effets d'optique, il y a un respect des gestes barrières et notamment du port du masque qui est très large et très majoritairement soutenu. Ça ne veut pas dire qu'on se réjouit de ces mesures, mais en tout cas, on les applique. Pourquoi? Principalement parce qu'on a peur et parce qu'on est inquiet.
Le dernier point, Bernard Sananès. Bon, on ne va pas revenir sur les errements catastrophiques du début de la crise au mois de mars et au mois d'avril. Il n'y avait rien, personne n'était prêt, etc. Depuis, le gouvernement n'a pas été globalement trop mauvais, dans les grandes lignes. Et pourtant, les Français, ils ont toujours pas confiance dans sa capacité à prendre le truc à bras le corps.
Oui. Alors ils considèrent, ça vaut pour les politiques et pour les autres, que on est mieux préparé pour 6 Français sur 10. On voit bien que la confiance effectivement dans l'exécutif, elle n'est que à 43%, donc elle est minoritaire. Mais surtout, et vous avez là l'explication, elle reste très marquée par une fracture politique derrière ce chiffre. Et donc c'est l'explication. L'explication, c'est que finalement, les Français portent un regard qui n'est, j'allais dire, au-delà du factuel, mais qui est marqué par leurs préférences partisanes. Ça veut dire quoi? quoi ? Ça veut dire que les électeurs d'Emmanuel Macron considèrent que la confiance est là, que les électeurs de droite sont partagés, et que ceux de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen et les abstentionnistes, eux, sont extrêmement critiques. Donc là aussi, le gouvernement n'a pas réussi à sortir du débat politique et de la lecture politique de son action.
Voilà ce qu'on peut tirer de cette étude ELAB sur les Français et le Covid-19, très clairement exprimée par la voix de Bernard Sananès, le patron d'ELAB. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Radio Classique. Quant à vous, Dimitri Pavlenko, vous voulez revenir sur les chiffres du chômage. Pôle emploi a donné hier les chiffres du mois de juillet. Nette diminution de ce qu'on appelle le stock, j'aime pas ce mot-là, mais
non, c'est pas,
le
c'est
stock
vrai,
de personnes sans activité.
C'est un peu déshumanisant.
174 000 de moins fin juillet par rapport à fin juin, donc ça semble très bien, troisième mois de baisse consécutive. Mmh. Mais une fois de plus, on nous dit, attention, c'est un trompe-l'œil, le pire est à venir, etc. Est-ce qu'on vit, Dimitri, et pour longtemps peut-être, une crise de chômage de masse?
Alors peut-être là,
c'est bizarre. Expliquez-nous pourquoi ça baisse et qu'ils sont pas contents quand même.
Là, l'impression, c'est qu'on a une crise sans chômage. C'est ça qui est assez étonnant, Bernard. Alors c'est un paradoxe, parce que il y a quand même un effet statistique. Alors oui, c'est vrai, le chômage baisse depuis 3 mois, il est quand même très élevé. On est à 4 millions de personnes qui n'ont aucune activité, qui sont en catégorie A, comme on dit. On était à 3 millions 2 au tout début de l'année, donc c'est quand même plus 800 000. Cette baisse aussi, disons-le, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que certes, ça baisse en catégorie A, ceux qui n'ont aucune activité, mais en revanche, ça monte dans les autres catégories qui
sont... Qui travaillent un peu.
B et C, voilà. Alors c'est quoi la différence? Vous êtes en B si vous avez travaillé moins de 78 heures dans le mois, soit un mi-temps. Mmh. Vous êtes en C si vous avez plus de 78 heures de travail au compteur dans le mois qui vient de passer. Donc vous avez quand même beaucoup de gens qui étaient en catégorie A, qui avaient perdu leur job pendant le confinement, qui en ont retrouvé un au moment du déconfinement. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Ces gens-là sont encore, en fait, dans ce qu'on appelle le halo du chômage. Alors, quand même, une bonne nouvelle, c'est que pour le moment, vous avez quand même assez peu de nouveaux inscrits, des gens qui étaient en poste et qui se font licenciés à ce stade. On compte que 50 000 suppressions de postes.
Mais il y a les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché là, le mois prochain.
Hein. Ah bah oui, alors ça c'est effectivement...
Pour leur premier job.
Ouais.
Alors ça va pas être simple.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est donc ces licenciements, est-ce qu'ils vont arriver? Parce que le gouvernement a une communication quand même, pour le moment, prudente sur le sujet, mais quand même, ils s'en inquiètent assez ouvertement, parce qu'en fait, c'est en ce moment que les entreprises sont en train d'évaluer la situation de l'emploi. C'est maintenant que se font les arbitrages sur est-ce que je vais garder telle ou telle personne, est-ce que je ferme telle ou telle usine. L'exécutif redoute un petit peu ce qui va se passer. C'est d'ailleurs pour ça que Jean Castex, hier devant le MEDEF, a annoncé la prolongation de l'indemnisation généreuse du système du chômage partiel. C'est aussi pour ça qu'on a créé...
Un mois de plus.
Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a créé le chômage partiel dit de longue durée pour des secteurs spécifiques comme l'aéronautique. Mais quand même, pour vous faire une baisse de l'idée, de la baisse globale du niveau d'activité, depuis le début de la crise, vous avez 6,5 milliards d'heures qui ont été déclarés en chômage partiel par les entreprises. C'est comme si tous les salariés de France, près de 30 millions de personnes, avaient pris 12 semaines de congé. Rendez-vous compte, ça n'est pas rien.
Ce n'est pas notre cas, déjà. Ouais. Bon, Dimitri, dernière question. Est-ce que l'État va pouvoir sauver tous les emplois? Non, parce que
d'abord, il faut laisser mourir des entreprises qui ne survivraient pas sans aide, sinon on crée, comme on appelle, des zombies. Puis on va pas se le cacher, l'État fait des choix. Il y a des secteurs qui sont prioritaires. Vous pensez à l'aéronautique, parce que si on laissait le secteur s'autodétruire, le reconstruire avec les compétences que ça demande, ça prendrait trop de temps. Est-ce qu'on peut en dire autant de la restauration? Malheureusement, non. On ne sait pas si les Français retourneront de manière aussi importante au restaurant. Bernard le disait à l'instant. Le problème pour le gouvernement, en fait, aujourd'hui, il est politique, parce que ceux qui vont perdre leur job, c'est la caissière, c'est la vendeuse de vêtements, c'est le serveur dans un restaurant. Et c'est là, aujourd'hui, que se recrutent les gilets jaunes, qui font leur retour. Ils donnent rendez-vous, ils appellent à manifester le 12 septembre. La CGT, elle, c'est le 17. Donc la rentrée, elle est sanitairement sensible, Bernard, mais elle va être aussi socialement explosive.
Et puis Jérôme Chapuis, qui est le troisième spécialiste ce matin, rédacteur en chef à La Croix. Une info ce matin, hein, Jérôme, tout de même, l'insoutenable suspense sur la nomination de François Bayrou, qu'il me pardonne, au commissaire en charge du plan, ça va être terminé dans quelques jours, la semaine prochaine normalement.
Ouais, sauf aléa de dernière minute, ce sera fait lors du Conseil des ministres de jeudi prochain, le 3 septembre. Selon le principal intéressé, tout devrait être prêt, enfin Enfin, j'ai envie de dire, parce que depuis...
Ça fait 6 semaines.
Le temps, ouais, c'est ça, ça fait presque 2 mois et demi qu'on en parle. 2 mois, depuis les premières rumeurs sur le remaniement au tout début de l'été.
Alors, on se demande d'ailleurs pourquoi ça a pris autant de temps. Parce que c'est pas compliqué de nommer quelqu'un.
Alors, il y a un détail amusant, par exemple. François Bayrou, vous savez, il veut pas qu'on dise qu'il fait ça pour de l'argent, d'autant qu'il reste sous le coup d'une enquête pour des emplois présumés fictifs au bénéfice de son parti. Le Modem, il a donc déjà lui-même annoncé qu'il exercerait cette fonction gratuitement. Et alors, figurez-vous que l'État, qui considère à juste titre que tout travail mérite salaire, n'a pas prévu ce genre de cas. Un poste de ce niveau à titre bénévole, ce n'est pas possible. Mais non, c'est pas prévu dans les textes. Donc il faut un décret spécifique. C'est du sur-mesure, ça prend un petit peu de temps, du sur-mesure comme d'ailleurs à peu près tout dans cette affaire.
Et c'est vraiment, selon vous, un poste sur-mesure?
Ah oui, il a obtenu, par exemple, d'être rattaché directement
à l'Élysée.
Voilà, au président de la République, alors que France Stratégie, l'organisme qui est héritier du commissariat au plan, dépend aujourd'hui officiellement du Premier ministre. Il respecte beaucoup Jean Castex, mais pas au point de travailler sous ses ordres. Il n'assistera pas au Conseil des ministres, il sait combien on s'y ennuie. Il n'aura pas à démissionner de sa mairie de Pau, puisqu'il aura le droit de cumuler cette fonction avec son mandat. Et comme il l'a, là aussi encore, lui-même annoncé la semaine dernière au quotidien régional La République des Pyrénées, il a l'intention... c'est dans le vent, de télétravailler. Il exercera...
Il
a dit qu'il allait exercer sa fonction en partie depuis sa ville. Il va rester 5 jours par semaine dans le Béarn.
Mais pourquoi est-ce qu'il tenait tant à ce poste qui fait très République du général de Gaulle tout de même? Qu'est-ce qu'il compte en faire de ce travail-là?
Déjà, c'est une très 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 vieille idée chez lui. Déjà, quand il était candidat en 2007, moi je me souviens l'avoir entendu dire qu'il rêvait de nommer un ministre en charge du temps long, en charge du long terme. Finalement, ce ne sera pas tout à fait ministre, mais ce sera lui. Alors qu'est-ce qu'il va en faire? Les détracteurs disent que c'est un os à ronger, une manière de l'occuper. D'autres que pour Emmanuel Macron, c'est le prix à payer pour avoir la paix d'ici à 2022. Les plus indulgents à l'égard de François Bayrou estiment que c'est un lot de consolation, une sortie par le haut pour un homme qui n'aurait pas eu la carrière qu'il méritait. À défaut d'être aux manettes, lui, il se voit vraiment comme le grand architecte des 20 ou 30 prochaines années. Quand vous construisez une maison, il faut avoir un plan. Et donc, dans son esprit, c'est lui qui tient le crayon. Il y en a pas mal autour de lui qui font référence à Valéry Giscard d'Estaing, l'architecte du traité constitutionnel européen. Il y a un peu de malice là-dedans, parce que quand on connaît le destin de ce texte qui a terminé aux orties, lui, François Bayrou, il préfère s'inscrire dans la filiation de Jean Monnet. Jean Monnet qui était le premier commissaire au plan nommé par le général de Gaulle à la naissance de cet organisme en 1946. Et alors là, c'est assez savoureux, parce que François Bayrou, fervent européen, il a forcément lu les mémoires du père fondateur et écouté ce qu'écrivait Jean Monnet dans ses mémoires. J'avais mieux à faire que d'exercer moi-même le pouvoir. Mon rôle n'était-il pas d'influencer ceux qui le détiennent et de veiller à ce qu'ils s'en servissent au moment utile? Alors oui, François Bayrou se rêve en architecte, peut-être aussi à ses heures perdues en marionnettiste.
De veiller à ce qu'ils s'en servissent.
Mais oui, ouais,
car on se servait de ce temps-là à l'époque.
Exactement.
Merci beaucoup Jérôme Chapuis, donc rédacteur en chef à La Croix. Merci Dimitri Pavlenko et Monsieur Sananès Bernard. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est 7h51. Les chevaux victimes de la folie des hommes qui les mutilent et les tuent, c'est partout en France depuis plusieurs semaines. Du coup, dans son journal imprévisible, Renaud Blanc s'intéresse à sa façon, bien sûr, au troisième animal préféré des Français.